Écoute.
Bonjour, mon invité pour ce podcast hebdomadaire est aujourd'hui Karim Bitar, qui est non seulement le doyen de la faculté de sciences politiques de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth, mais qui est également directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour Karim, nous allons bien sûr parler du Liban avec toi aujourd'hui. Et d'un point de vue français, parisien, on a l'impression d'une descente aux enfers qui ne se finit pas pour le Liban, pays pour lequel la France a bien sûr un intérêt, une relation politique et affective particulière, et on assiste un peu médusé et effrayé à ce qui, vu de Paris, apparaît comme une descente aux enfers.
Bonjour Pascal, en effet c'est une crise véritablement sans précédent depuis la création de l'État du Grand Liban en 1920 par le commissaire Gouraud. Depuis l'indépendance du Liban en 1943, le système politique libanais est complètement grippé, est devenu complètement dysfonctionnel. Nous assistons également à une crise économique et financière absolument gigantesque après l'effondrement de la pyramide de Ponzi qui avait été mise en place depuis les années 1990. Et nous assistons à une crise de souveraineté, puisque le Liban n'est plus véritablement maître de son destin en raison des guerres par procuration régionale, de l'influence grandissante de l'Iran à travers le Hezbollah et de la réaction des puissances sunnites du Golfe, notamment de l'Arabie saoudite, qui monte le ton depuis un certain temps. Et nous sommes aujourd'hui face à une réaction très belliqueuse de l'Arabie saoudite qui impose une sorte de blocus économique au Liban pour protester contre les déclarations d'un ministre qui, avant même sa nomination, avait tout simplement qualifié d'absurde la guerre au Yémen. Donc le Liban est pris au cœur de ce maelstrom, de ces guerres par procuration régionale, et paie encore une fois le prix de ces affrontements. Le Liban n'a jamais été dans son histoire un pays souverain, avant même qu'il n'accède à son indépendance. Depuis le 19e siècle, il a été victime des interférences étrangères. Au 19e siècle, c'était la France et la Grande-Bretagne qui intervenaient pour protéger tantôt les Maronites, tantôt les Druzes. Aujourd'hui, ce sont les Saoudiens et les Iraniens qui interfèrent pour protéger tantôt les sunnites, tantôt les chiites. Donc le Liban demeure un État tampon de la géopolitique internationale. Il n'a toujours pas réussi à construire un État digne de ce nom, un État souverain, et il n'a toujours pas réussi à faire émerger un citoyen libanais. Le Liban demeure prisonnier du communautarisme politique, et les espoirs de voir émerger une citoyenneté libanaise qui était apparue lors de la révolution du 17 octobre 2019, qui n'avait pas de précédent dans l'histoire nationale. On avait vu du nord au sud, dans toutes les grandes villes du pays, des mouvements de protestation, demander un nouveau contrat social fondé sur la citoyenneté et non plus sur le communautarisme, une justice sociale, un développement économique. Ce mouvement de protestation s'est heurté à une contre-révolution qui a été menée par les membres de l'oligarchie politico-financière, par le Hezbollah qui s'est précipité à la rescousse de ces partis, alors même qu'historiquement, il se posait comme un parti hostile à l'establishment. Il s'est cette fois-ci rangé du côté du pouvoir. Et également par ce qu'on appelle au Liban le parti des banques, c'est-à-dire une oligarchie financière qui avait énormément profité des taux d'intérêt très élevés de ces 30 dernières années. Donc on peut dire que cette révolution libanaise de 2019, pour simplifier, a été phagocytée par le parti de Dieu et le parti des banques. Derrière cette démocratie parlementaire de façade, le Liban en fait est gouverné par ces deux partis qui sont les plus puissants, les intérêts privés et catégoriels, les intérêts financiers, et le Hezbollah qui contrôle les principaux rouages de l'État libanais.
Donc en fait, on est passé d'une situation où c'était les interférences occidentales et européennes au 19e siècle, puis ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, la Syrie et Israël, et maintenant c'est un combat principalement entre Saoudiens et Iraniens alors.
C'est ça. Lorsque la guerre de 1975-1990 a pris fin, on a eu une sorte de condominium syro-saoudien qui a gouverné le Liban entre 90 et 2005 avec la bénédiction des puissances occidentales, avec la bénédiction des États-Unis et de la France de Jacques Chirac. Jacques Chirac qui était l'ami personnel de Rafik Hariri, qui était l'homme des Saoudiens, qui avait aussi de bonnes relations avec la Syrie d'Assad. Donc cette période de condominium syro-saoudien a pris fin avec l'assassinat de Rafik Hariri en 2005, et ça a été le début d'une nouvelle phase dans l'histoire du Liban, qui a été marquée par une série d'assassinats politiques, par la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006, et par une série de déstabilisations qui a conduit à la crise financière de 2019 et à la révolution du 17 octobre 2019.
Alors concrètement, quelle est la situation de la vie quotidienne au Liban? Puisqu'on entend beaucoup de choses sur la difficulté de se ravitailler, la difficulté même d'avoir de l'essence, les prix ont augmenté, il y a même des problèmes alimentaires. Concrètement, pour la majorité de tes concitoyens à Beyrouth ou dans le pays, quelle est la situation quotidienne pour les Libanais?
Alors, la situation n'a jamais été aussi difficile, même pendant les années de guerre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon la Banque mondiale, la crise actuelle est l'une des plus graves crises financières au monde depuis 1850. Plus de 70% des Libanais aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté. Selon l'UNICEF, plus de 30% des enfants libanais se couchent sans avoir dîné. Nous avons des pénuries de médicaments, des pénuries d'essence, des coupures d'électricité qui vont jusqu'à 22 heures par jour. Il va bientôt y avoir éventuellement des coupures d'Internet. La plupart des entreprises du secteur privé ont dû licencier massivement. Et nous assistons à une paupérisation croissante et à une émigration croissante des classes moyennes. Ce qui fait que le Liban est un pays où les inégalités qui étaient déjà très marquées sont encore en train de se croiser. Il y a une petite partie de la population qui dispose de moyens de devises étrangères qui vit confortablement et une majorité paupérisée qui va de nouveau être contrôlée par les partis politiques traditionnels qui ont des réseaux clientélistes et qui vont acheter des voix au rabais aux prochaines élections.
Alors devant cette situation catastrophique, le Liban, capitale intellectuelle, capitale économique du monde arabe autrefois, donc qui se vide de sa substance, qui se vide de ses élites, de ses forces vives. Comment réagissent d'une part ce que tu as décrit, le parti des banques et le parti des dieux, parce que finalement ils veulent maîtriser, mais ils maîtrisent, ils contrôlent un pays qui a de moins en moins de puissance et de force. Et plus ils étendent leur contrôle, plus finalement ils vident le pays de sa substance. Est-ce qu'ils vont un jour réaliser que, y compris dans leur propre intérêt, cette politique est contre-productive, stupide et criminelle?
Voilà, tu mets le point sur quelque chose d'essentiel. C'est précisément parce qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent plus continuer comme avant, qu'ils sont en train peut-être quelque peu de perdre leur nerf et de commettre un certain nombre de faux pas. Le Hezbollah, lorsqu'il était en position de force, avait réussi à maintenir ses nerfs, à agir de façon plus ou moins raisonnée et raisonnable. Suite à l'invasion, à la fin de l'occupation israélienne du Liban, qui avait suivi l'invasion de 1982, je rappelle qu'il y avait eu 18 ans d'une occupation assez brutale. L'invasion de 1982 avait causé au bas mot 18 000 victimes civiles libanaises, selon les sources israéliennes, près d'un million de déplacés, 18 années d'occupation. Donc lors du retrait israélien, on s'attendait à ce qu'il y ait une épuration, à ce qu'il y ait des exactions du Hezbollah contre les Libanais qui avaient coopéré, collaboré avec Israël. Eh bien là, non, pas du tout. Le Hezbollah a fait preuve d'une certaine retenue parce qu'il se sentait en situation de force. A contrario, dès lors que le Hezbollah se sent en situation de faiblesse, comme en 2005 après le retrait syrien, le Hezbollah a tendance à commettre des erreurs stratégiques assez manifestes. En 2005, ils avaient organisé une grande manifestation pour dire merci à la Syrie d'Assad. Cela avait été très contre-productif et avait provoqué une contre-manifestation le 14 mars demandant le retrait des forces syriennes. Et là, depuis 2 ou 3 semaines, le Hezbollah mène une campagne d'une violence inouïe contre le juge en charge de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth et ont organisé une manifestation au cœur d'un quartier chrétien de la capitale. Donc, on a le sentiment, alors même qu'eux-mêmes ne sont pas directement affaiblis, parce que leurs alliés sont affaiblis, leurs alliés chrétiens du parti du président de la République et leurs alliés chiites du mouvement Hamal, le Hezbollah est en train de commettre un certain nombre d'erreurs et de renforcer ainsi leurs adversaires. C'est ainsi que ces erreurs stratégiques pourraient finir par leur faire perdre le soft power qu'ils avaient gagné. En 2006, le Hezbollah, après la guerre contre Israël, était devenu à l'échelle panarabe un mouvement qui avait des adeptes en Égypte, un peu partout dans le monde arabe. Aujourd'hui, après la guerre en Syrie, après son intervention au Yémen, il en est réduit à être devenu un mouvement chiite libanais perçu comme un auxiliaire de l'Iran. Pour ce qui est de l'autre parti qu'on a évoqué, le parti des banques, eux également se sont rendus compte qu'ils avaient été trop loin en torpillant le plan de sauvetage économique élaboré par la banque Lazare, qui avait eu le soutien de la France à travers l'initiative Macron, en cherchant à socialiser leurs pertes après avoir privatisé leurs profits pendant une trentaine d'années. Ils se sont mis à dos une grande partie de la population libanaise, y compris les élites libérales et les classes moyennes. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'une aide du Fonds monétaire international et ils sont en train de rétro-pédaler en quelque sorte et de revenir à ce plan Lazare et à enclencher de nouveau des négociations avec le Fonds monétaire international après avoir perdu 18 mois. Donc le risque, comme toujours au Liban, c'est de succomber à l'hubris, de penser qu'on est tellement fort qu'on peut faire abstraction des autres et de ne pas aller vers le compromis lorsqu'il est encore temps. Cela vaut pour le Hezbollah, cela valait autrefois pour le sunnisme politique, cela valait auparavant par le maronitisme politique, cela vaut pour certains acteurs économiques. Chaque communauté libanaise commet à son tour les mêmes erreurs, malheureusement, à travers l'histoire.
Et par rapport à ce blocage, la société libanaise, dont quand même le niveau d'éducation, d'information est quand même très élevé. Donc, tu disais tout à l'heure que le mouvement que tout le monde avait observé avec beaucoup d'intérêt et d'espoir de 2019, il est brisé. Est-ce qu'il peut repartir ou est-ce que finalement, c'est plutôt le défaitisme, le désespoir qui l'a emporté sur la mobilisation ?
Il est vrai qu'il y a une certaine lassitude révolutionnaire. On a le sentiment que la contre-révolution a temporairement triomphé, mais les germes qui ont été plantés en 2019 n'ont pas encore complètement disparu. Il y a encore des efforts d'unifier l'opposition libanaise, qui est encore divisée sur plusieurs questions, sur la question des armes du Hezbollah, sur la question des politiques économiques. L'opposition libanaise n'est pas encore tout à fait unie, n'a pas encore de leader charismatique qui pourrait la rassembler, mais elle est quand même déterminée à se débarrasser de cette oligarchie qui contrôle le pays depuis une trentaine d'années, car ces partis que j'évoquais, ces 5 ou 6 partis communautaires, eux font bloc. Bien que les uns soient soutenus et financés par l'Iran et que les autres soient plus ou moins proches de l'Arabie Saoudite ou des États-Unis, tous font bloc pour torpiller les réformes économiques et financières, pour empêcher la constitution d'un État de droit digne de ce nom, pour empêcher toute reddition de compte, pour bloquer l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. Donc, les opposants, les réformateurs, la société civile n'ont pas d'autre choix que de poursuivre la pression sur cette classe politique, mais ils sont quelque peu désemparés, ils n'ont pas de soutien étranger, ils n'ont pas de moyens financiers, ils sont pris à la gorge par leurs soucis économiques et financiers. Comme tu le disais, ils doivent faire parfois des queues de 3-4 heures pour acheter des médicaments pour leurs grands-parents, pour remplir de l'essence pour aller au travail, pour s'approvisionner tous les matins. Donc, le changement politique n'est plus forcément une priorité. Et c'est sur cela que mise la classe politique. Cette classe politique est complètement incompétente en matière de politique publique, mais elle fait preuve d'une ingéniosité en matière de politique politicienne quand il s'agit de se reproduire, de maintenir leur contrôle sur l'État. Ils sont capables d'une ingéniosité dans la malfaisance et c'est ainsi qu'ils sont toujours au pouvoir depuis des générations. Et il y a une conception patrimoniale du pouvoir. Ils parviennent à transmettre les sièges de ministres et de députés à leurs enfants et à leurs petits-enfants.
Et cette opposition, est-ce qu'elle dépasse les clivages religieux ou confessionnels habituels? Est-ce que c'est une opposition qui parvient dans sa représentation et dans sa composition à dépasser ces clivages dont il est assez communément admis que, après avoir préservé le Liban des troubles, c'est maintenant quelque chose qui entrave le Liban dans son existence?
Oui, ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une nouvelle génération de Libanais qui est déterminée à transcender ce communautarisme libanais dont tout le monde a vu qu'il rendait impossible la lutte contre la corruption et l'édification d'un véritable état de droit. On a eu pendant les deux dernières semaines des élections dans les différentes universités libanaises qui font figure de test en l'absence d'échéance électorale nationale, et dans la plupart des universités du pays, ce sont les clubs laïcs, c'est-à-dire des mouvements transcommunautaires, qui l'ont emporté très largement devant les partis traditionnels. Donc cette opposition qui est en train de se constituer aujourd'hui est formée d'éléments réformateurs, libéraux, progressistes de toutes les communautés qui sont déterminés à construire un Liban fondé sur la citoyenneté. La citoyenneté demeure une idée neuve au Moyen-Orient, aussi bien au Liban, mais aussi dans la plupart des pays arabes, également en Israël, où les religieux jouent un rôle de plus en plus prégnant. Et je suis de ceux qui pensent que l'avenir des nouvelles générations dans cette partie du monde ne passera que par la citoyenneté et par l'idée républicaine, par un lien direct entre l'individu et l'État, et que tant que l'individu est prisonnier de son appartenance communautaire, tant qu'il est assigné à résidence, il ne pourra pas s'émanciper et qu'on ne pourra pas aller vers une bonne gouvernance tant que le communautarisme prévaudra sur la citoyenneté.
Dans ce climat, comment ont été perçues les différentes interventions du président Macron? Il a semblé jouer l'opinion contre la classe politique, mais en même temps, c'est bien que la classe politique qu'il traite. Comment est perçue de chaque côté du spectre politique au Liban l'intervention du président Macron?
L'intervention de Macron a été plutôt bien accueillie par les deux bords de l'échiquier politique libanais. On a salué son dynamisme, sa volonté de prendre à bras-le-corps le problème libanais, mais il a sans doute sous-estimé la rouerie, la roublardise de la classe politique libanaise. Il n'a peut-être pas réalisé qu'avant même qu'il ne prenne l'avion du retour vers Paris, on était déjà en train de détricoter son initiative. On lui a vendu de belles paroles, on lui a promis qu'on allait constituer un gouvernement de technocrates indépendants. Donc, il a peut-être usé de la carotte sans user du bâton. Ce n'est qu'un an après sa visite à Beyrouth qu'il a commencé à comprendre l'importance des sanctions et qu'il a convaincu ses partenaires européens qu'il fallait également agiter le spectre des sanctions. Quand nous l'avions rencontré à Beyrouth, deux jours après l'explosion du port, il était encore très réticent à utiliser cette arme des sanctions parce qu'il pensait qu'il fallait convaincre ses élus libanais de former un gouvernement. Il a très vite compris qu'on l'avait emmené en bateau et il l'a dit très clairement, il l'a dit: j'ai été trahi par cette classe politique libanaise. Cela dit, les Libanais ne lui en tiennent pas rigueur, au contraire, ils savent qu'il a fait preuve d'un certain volontarisme gaullien. Il était le seul sur la scène internationale à s'être mobilisé pour le Liban, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Beaucoup d'autres avant lui se sont fracassés les dents sur les réalités libanaises. Je pense aujourd'hui, et beaucoup de gens sont parvenus à cette cette conclusion au Liban que le seul langage que la classe politique libanaise comprend est celui des sanctions, à condition toutefois de sanctionner les deux bords de l'échiquier politique libanais et non pas uniquement comme l'ont fait les Américains avec Trump et Pompeo, d'utiliser l'arme des sanctions contre le camp du Hezbollah à des fins politiques. Les Libanais sont assez subtils pour savoir que la corruption est généralisée, quelles que soient leurs appartenances politiques. Ils savent que les deux camps trempent jusqu'au cou dans une corruption endémique et généralisée.
Est-ce que par rapport à cette situation pour le moins morose et du fait des interférences extérieures, donc principalement et pas uniquement saoudiennes et iraniennes, est-ce qu'il y a des craintes d'une reprise d'affrontements militaires intra-libanais?
Alors, il y a un certain nombre de craintes parce que le PIB libanais, du fait de la crise économique, a perdu 40% en moins d'un an. Et il n'y a pas d'exemple dans le monde où l'on ait assisté à une telle contraction du PIB, à une telle crise économique, sans que cela ne soit suivi d'insécurité, de troubles sécuritaires, d'affrontements dans les rues. Il y a de surcroît un nombre assez important de réfugiés syriens qui pourraient servir de chair à canon si demain telle ou telle puissance étrangère décidait de les instrumentaliser. Je pense qu'à ce jour, il n'y a pas encore de décision internationale de transformer le Liban en champ de guerre, mais comme on l'a vu il y a deux semaines, on pourrait assister à des débordements lors de manifestations, à des troubles par-ci, par-là, notamment dans les quartiers mixtes, lors de manifestations qui pourraient mal tourner. L'armée libanaise est en situation de surextension, la solde des soldats est de plus en plus dérisoire et l'armée est la seule institution qui est encore transcommunautaire et qui est la garante de l'ordre public. Si cette armée devait se diviser ou n'était plus en mesure de maintenir l'ordre, on assisterait à la réémergence de milices communautaires et ce serait à nouveau, comme en 1975, la sécurité locale et des milices communautaires qui réapparaîtraient par-ci par-là et ce serait véritablement tragique. C'est pour cela que la communauté internationale, la France et d'autres pays soutiennent de façon logistique, financière et même à travers des rations alimentaires l'armée libanaise et les forces de sécurité.
On arrive au terme de cet entretien. Karim, quel pourrait être le facteur déclencheur d'un réel changement? D'une façon ou d'une autre, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être un game changer au Liban aujourd'hui?
Le Liban a absolument besoin d'un nouveau contrat social, d'un nouveau système politique, de se désengager de la politique des axes régionaux. Il ne peut plus se permettre d'être livré en pâture, d'être un peu sur le menu à chaque fois que les puissances régionales s'affrontent, de ne jamais être autour de la table, mais d'être toujours au menu. Certaines parties libanaises préconisent la neutralité libanaise, une formule de neutralité. Juridiquement, ce serait très difficile à mettre en place, mais à défaut de neutralité, il faut assurer une certaine distanciation, permettre au Liban de se reconstruire, de reconstruire son économie, son contrat social, sans se laisser en permanence entraîner dans des affrontements qui ne sont pas les siens. La question des armes du Hezbollah, de la souveraineté ne peut plus être éludée. Elle pose véritablement problème. La question de la restructuration des banques est également fondamentale. Donc aujourd'hui, les Libanais se doivent de rejeter toutes les interférences étrangères d'où qu'elles viennent et d'avoir également le courage de confronter la cupidité de certaines de leurs élites financières et économiques qui se sont engraissées sur le dos des Libanais les plus défavorisés. Donc ce nouveau contrat social devra assurer à la fois une souveraineté, une justice sociale, un développement économique, tout en maintenant cette unité libanaise, car les Libanais sont condamnés à vivre ensemble. C'est un pays qu'on ne peut pas diviser, quand bien même certains souhaiteraient qu'on aille vers une autonomie des différentes communautés. Cela ne me semble pas réalisable tant qu'il y a une imbrication entre elles de ces communautés libanaises. Ce sera une mission très difficile, mais je crois qu'elle vaut le coup d'être menée, car le Liban est véritablement une expérience inédite dans le monde. Ce n'est pas la diversité libanaise qui pose problème, c'est la l'immixion permanente la projection permanente de conflits extérieurs sur une situation intérieure qui est naturellement conflictuelle et qui est propice à les accepter et à en fomenter de nouveau, car nous n'avons pas été capables jusqu'à présent de créer un État suffisamment solide pour protéger les citoyens libanais et une citoyenneté qui mettrait un terme aux angoisses existentielles des communautés libanaises. Tant que ces angoisses existentielles n'auront pas été traitées, ces communautés iront chercher des protecteurs à l'extérieur des frontières, et c'est un cercle vicieux qu'il est temps de briser.
Merci, merci énormément Karim Ebil Bitar pour cet éclairage particulièrement lucide et volontaire sur la situation au Liban, et espérons que ta voix soit entendue.